Bonjour, fraude généralisée au poste douanier de Kassindi au Nord Kivu. Nous sommes à 80 km de Beni. Les autorités provinciales du Nord Kivu confirment cette fraude. Une partie d'opérateurs économiques s'y lave les mains. Les manœuvres de fraude passeraient d'abord par les importateurs eux-mêmes, suivis des agents en douane et des militaires. Conséquence, il y a perte de ressources fiscales. L'aéroport de la Luano a été doté de matériel sophistiqué de lutte contre les incendies. Selon Voilà, de nombreux nids de poules jalonnent la piste de l'aéroport. Ces nids de poules sont dangereux pour les avions qui décollent ou atterrissent. Le dernier incident en date, c'est celui d'un avion cargo. En novembre dernier, ce cargo perdit son train d'atterrissage du fait des nids de poules. L'aéroport est balisé, mais les feux fonctionnent, tant bien que mal. Sur les bords de l'océan Atlantique, Mwanda, cette ville connaît de multiples problèmes. Cité assez riche, cité pétrolière, mais le développement n'y suit pas. Que se passe-t-il à Mwanda? On le saura dans quelques instants. Autre lieu au cœur du Congo, Kasongo, il y a quelques jours, quelques années je veux dire, cette localité était enclavée avec la reprise du trafic ferroviaire et Kasongo espère peut-être revivre, mais à quand le réveil définitif de Kasongo, rien ne laisse le présager, dès lors que Kasongo semble être abandonné. On va en parler et dans quelques instants, parce que Kasongo est aussi frappé par la prévalence du VIH-Sida. Voilà pour Okapi Action aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 2 heures de vie à travers la République démocratique du Congo. Dans quelques instants, restez branchés, participez. C'est les 081 890 68 90.
Okapi.
Okapi à Lubumbashi. Sur 95.8 FM.
Eh bien, on vous le disait tout à l'heure, l'aéroport de la Luano a été doté d'un matériel sophistiqué de lutte contre les incendies. Selon Voilà, il y a beaucoup de nids de poules sur la piste de l'aéroport. Une dernière date par rapport aux accidents et conséquences qui surviennent lorsque des avions doivent atterrir ou décoller, c'est celui d'un avion cargo qui avait raté, si vous voulez, il avait perdu son train d'atterrissage, je veux dire. Cet aéroport qui est balisé, mais malheureusement, les feux fonctionnent tant bien que mal. Pour en parler, nous avons Jean Gandou depuis Lubumbashi. Jean Gandou, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, à l'attention de plusieurs de nos auditeurs qui sont branchés maintenant, et même à l'extérieur parce qu'ils nous suivent aussi, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire l'aéroport international de Lubumbashi?
Walter, l'aéroport de Lubumbashi est créé depuis 1954 et il est situé à peu de 10 km du centre-ville de Lubumbashi. De par son importance, il est le deuxième du pays et il a une piste de 3150 mètres de longueur et 50 mètres de largeur. Son importance, Walter, tu peux t'en rendre compte, se retrouve dans ses infrastructures, sa piste et ses services. Alors, pour tout voyageur qui arrive à Lubumbashi, à partir de l'aéroport Nok, il est plus frappé par la multiplicité des services qui y opèrent. Donc, étant une porte d'entrée, la Luano, qui est eu un aéroport vieux de 50 ans, donc sa piste est vieille de 50 ans, voit beaucoup de services de l'État y opérer. Et il y en a au total 16 ou 19 au lieu de 4 qui sont du reste reconnus par l'État. Donc cet aéroport n'a pas encore un certificat d'aérodrome, mais les efforts sont fournis pour l'obtention de ces documents internationaux. Beaucoup d'avions atterrissent à cet aéroport, on peut en compter 15 ou 16 par jour. Et aussi, l'aéroport international de Lubumbashi est utilisé le plus par le chef de l'État congolais lorsqu'il est de passage à Lubumbashi ou il veut aller en Afrique australe. Et il y a tout un pavillon qui est réservé aux passagers de l'État dans le chef-lieu de la capitale du cuivre. Et puis, à l'aéroport international de Lubumbashi, il y a des petites échoppes, un salon d'honneur, un endroit où les passagers peuvent se rafraîchir en attendant leur éventuel départ. Et à quelques mètres de là, Walter, il y a un petit barrage où il faut payer un droit d'accès au parking. Et c'est la RVA, donc la régie des voies aériennes, qui gère le tout. Voilà, d'une manière un peu superficielle, bon, c'est l'aspect de l'aéroport international de Lubumbashi, Walter.
Mais alors, dites-nous, Jean Gandou, combien de services fonctionnent à l'aéroport de Lubumbashi?
Il y a plusieurs services qui y opèrent, Walter. La plupart, ils fonctionnent illégalement car n'étant pas reconnus par l'État. La pléthore des services qui opèrent à l'aéroport n'est pas de nature à rassurer les voyageurs. Rassurez-vous que même ceux qui partent d'une ville à une autre à l'intérieur du pays sont par moments confrontés aux multiples et nombreuses difficultés. Au lieu des cartes de services reconnues, je l'ai dit tout à l'heure, Walter, il y en a 16 ou 19 et l'État n'en reconnaît que 4. Donc c'est vraiment un casse-tête à l'aéroport de Lubumbashi. Et dans ces conditions, les étrangers qui arrivent pour la première fois à Lubumbashi, vraiment, vraiment, ils ont une impression qui n'est pas bonne du tout, Walter.
Comment comprendre que des services qui ne sont pas autorisés à opérer à l'aéroport de la Luano continuent à faire comme si de rien n'était?
Pertinente question, Walter. Ces services opèrent au vu et au su de tout le monde, les autorités également. Et c'est que nous ne parvenons pas à comprendre, c'est que les autorités qui voient ces différents services opérer ne prennent pas des mesures adéquates ou ne fournissent pas des gros efforts pour mettre en application l'arrêté qui avait été, ou le décret qui avait été signé par le président de la République afin que l'aéroport soit suffisamment dégagé des services inopportuns.
Mais alors, il y a une chose qui est connue, c'est que, par exemple, des services qui sont payants dans les aéroports, c'est notamment le parking et bien d'autres services. La RVA, c'est l'une des entreprises publiques qui font beaucoup rêver, beaucoup de gens veulent y aller. Mais qu'est-ce que la RVA fait de ses ressources?
La RVA, dans ses attributions, Walter, gère les installations aéroportuaires. Et donc, en principe, il incombe donc à la RVA de pouvoir tout faire pour arranger ce qui est à arranger. Et à ce sujet, le commandant de la RVA, M. Gustave Ngeleka, que nous avons abordé, nous a répondu en ces termes, Walter.
Chez nous, nous ne faisons pas de distinction entre les recettes aéroportuaires. Toute forme de recettes, quelle qu'elle soit, constitue les recettes aéroportuaires. Et la priorité des priorités, c'est le paiement du salaire. Tout l'argent que nous gagnons ici est affecté au salaire. Mais comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas que les salaires à payer. Nous venons d'acquérir pas moins de 5 véhicules nouveaux. Et à eux tous, ils demandent pour remplir, parce que les véhicules aéroportuaires doivent avoir en permanence des réservoirs pleins pour faire face à n'importe quelle situation. Les véhicules que nous avons demandent 1000 litres pour être remplis. Rien que ceux que nous venons de recevoir, sans parler des anciens que nous possédons. Pensez, il faut payer 1000 litres au moins chaque semaine. Et nous avons des tas de problèmes que nous résolvons avec cet argent. Mais le prioritaire, c'est d'abord le salaire des agents. La réflexion du tarmac, nous entretenons la piste, nous entretenons le tarmac. Quand il y a des gros travaux qu'il faut faire sur la piste, nous devons être amenés d'abord à fermer la piste en question pour des raisons évidentes, afin de permettre aux gens de travailler. Mais il existe des techniques modernes qui permettent, par exemple, de travailler en 8-10 heures. Nous pouvons fermer, par exemple, un jour provisoirement l'aéroport de nuit. Le temps qu'on travaille dessus, on le fait. Mais ce sont d'énormes travaux qui demandent de lourds investissements. À titre d'exemple, un seul carreau sur le tarmac, sa construction coûte 450 $. Quand on imagine que la piste et le tarmac comptent des dizaines de milliers de carreaux, faites seulement les calculs par extrapolation.
Et voilà le commandant de la RVA. Mais dites-nous, Jean Gandou, on a évoqué ces difficultés sur la piste de l'aéroport de la Luano, notamment des nids de poules, les gens passent. Quel est l'état de cette piste aujourd'hui?
Walter, la piste est praticable seulement, elle nécessite une réhabilitation. Et il vous souviendra qu'au mois de novembre dernier, il y a un avion, un cargo qui a failli connaître crash parce que son pneu arrière s'est retrouvé dans un petit nid de poule quelque part sur la piste. Mais il faut cependant reconnaître, Walter, que l'aéroport de la Luano est parmi les bons que compte notre pays. Mais ce qui est troublant est que par moment, les voyageurs, pour accéder aux installations, notamment les installations sanitaires, ils doivent payer. Ce qui est tout à fait choquant et troublant. Mais à cette question, le commandant Gustave, que nous avons approché, nous a dit que cette mentalité est révolue et toute personne qui poserait un tel acte se verrait vraiment renvoyée de la RVA. Mais il reconnaît tout au moins que cette pratique a été démise par le passé et les dames qui s'y a donné avaient été punies. Walter.
On sait très bien que les aéroports, c'est des milieux qui sont fréquentés par plusieurs personnes, de plusieurs nationalités, et donc de par le monde entier par ailleurs, la sécurité est de mise. Quelles sont les dispositions sécuritaires aéroportuaires au niveau de l'aéroport de la Loano pour sécuriser et rassurer les voyageurs?
C'est là tout le problème, Walter. La sécurité est pratiquement un élément fondamental, surtout dans les cas de compagnies aériennes. L'aéroport doit être suffisamment sécurisé, raison pour laquelle tout doit être mis en œuvre pour parer à toute éventualité. Monsieur Ngeleka, donc, qui est le commandant de la RVA, que nous avons approché, et nous avons longuement parlé avec lui, et voici sa version de fait quant à la question de disposition sécuritaire à aéroportuaire, Walter.
Le principal service que nous rendons à nos clients, c'est la sécurité de la navigation aérienne. C'est-à-dire, nous assurons le suivi en vol des avions en n'importe quel point de la République. À ce titre, nous avons divisé la République en 3 régions d'information de vol. Les avions qui viennent chez nous, notre centre d'information de vol qui est situé ici dans notre aéroport, les prend en charge à 1000 ou 1500 km, ici ça dépend de la direction d'où il vient, jusqu'à les amener à Lubumbashi où le service de contrôle de la circulation aérienne les prend en charge. L'éclairage de la piste ne pose absolument aucun problème. La preuve, nous avons 2 à 3 fois par semaine des vols de nuit. Et bien tous ces avions viennent et se posent en toute sécurité la nuit. Nous sommes aujourd'hui jeudi, dimanche dernier, il y a eu le vol Ewabora de nuit. Hier, il y a eu le vol d'Air Malawi qui est venu se poser ici la nuit, qui a décollé ce matin. Notre aéroport est opérationnel 24 heures sur 24. Le balisage y est parfaitement opérationnel. J'en profite de l'occasion pour dire que j'avais entendu une fois que...
Mais voilà, on a eu un petit problème, un petit son qui s'est très mal coupé, que cela nous tienne. Jean Gandou, enfin, selon les réponses qu'on vient d'attendre, c'est que tout va bien, tout baigne, mais ça, c'est l'autorité qui dit, il ne peut que, si vous voulez, défendre sa chapelle, comme on dit. Mais que disent les usagers de l'aéroport par rapport aux services qui leur sont rendus et proposés?
C'est véritablement là une autre paire de manches, Walter, quant à la considération qu'ont les usagers de l'aéroport de Lubumbashi. Ceux-là que nous avons rencontrés ne sont pas du tout contents, car pour eux, ils ne voient pas où va l'argent que perçoit la RVA. Je vous ai dit qu'à l'entrée de l'aéroport, il y a un barrage où il faut payer un droit de parking. Et les autorités de la RVA refusent de parler du péage. Ils parlent plutôt du droit d'accès au parking. Et les gens donnent l'argent comme cela. Malheureusement, il y a une broussaille qui a élu domicile du côté de l'aéroport. Mais ceux-là que nous avons approchés nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la RVA ne pourrait pas utiliser cet argent pour essayer d'arranger tant que faire se pourrait cet aéroport. Voilà pourquoi, Walter, je voudrais que nous puissions vraiment suivre ce qui nous a été dit et surtout que nous sommes pendant une période pluvieuse et la broussaille est en train de prendre corps et ce n'est pas de nature à arranger tout le monde. Suivons plutôt celui-ci.
Il est concerné du péage à côté de l'aéroport. Hein? Tout on arrive pas 4,5 $ au taux du jour. Ni mahuta mo impasha kusifir, kutengeneza ako sako kumbele kupiste kunye kule na mpembeni mote mule mu kuko aeroporto kule. Hakuna kitu, hakuna tu reaction. Mbele piste nye kule makuta ya kile njia kila shiku ni ya mingi tunaripaka. Kama unangarami otoka nye shiku kuko tu mavira mingi, mavola kwa chana, ni mahuta impasha kuservir juu entretien tu aeroporto. Merve en tout cas, jusqu'à là, tout on est qui n'y a pas, au juste. Peut-être qu'on a ma projet à gagner en dehors, il y a autengeneza à plein nye et puis il y a le Lubumbashi.
Peut-être un petit résumé, Jean Gandou, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas compris le Kiswahili.
Eh oui, Walter, cet homme dit simplement qu'à l'aéroport de Lubumbashi, il paye beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Surtout le jour où il y a une grande flotte, donc il y a beaucoup d'avions qui atterrissent et qui partent, et de ce fait, il y a beaucoup de taxis qui s'y rendent, les gens payent, malheureusement, et rien n'est fait. La broussaille est en train de grandir, de s'agrandir également, et aussi, ils se demandent si la RVA a d'autres raisons ou d'autres objectifs pour lesquels elle est en train de récolter ses fonds, Walter.
Mais que disent les voyageurs qui dépassent les salles d'attente, qui vont jusqu'au pied de l'avion et ils montent par rapport notamment aux services rendus par la RVA?
Walter, ces voyageurs sont pratiquement déçus parce qu'ils se retrouvent dans un tourbillon des services opérant à l'aéroport. Ils ne comprennent même pas pourquoi ces services demandent l'argent alors qu'ils sont là pour rendre service, comme on vient bien de le dire. À chaque bout, à chaque pas, il faut on fait face à un autre service, on demande l'argent, il faut glisser ça et là. Et ce qui est aussi marrant, c'est qu'il y a les étrangers qui viennent, vous voyez quelqu'un qui part vite prendre le passeport d'un étranger, il le conduit quelque part, tout ça parce qu'il voudrait recevoir un petit quelque chose. Et donc, la plainte de ce voyageur que j'ai rencontré trouve son fondement. Voilà pourquoi, Walter, j'aimerais que les auditeurs ainsi que vous-même, nous puissions suivre cela.
À l'aéroport de la Loano, il y a pléthore de services de l'État. Ces services ne font pas leur travail. À chaque fois, pour qu'un service rende un travail ou accomplisse sa tâche, on exige de l'argent, alors que le travail n'est pas fait correctement. Je peux donner un petit exemple. Pour passer, pour que les bagages passent, des agents de la DGM, qui pour ne pas contrôler les bagages des passagers, exige de l'argent. L'argent qui est perçu, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que sûrement que cet argent-là n'entre pas dans les caisses de l'État.
Et voilà, un voyageur qui s'est exprimé, mais Jean Gandou, vous vivez à Lubumbashi. Est-ce que vous avez peut-être noté quelques signaux de volonté d'améliorer les choses vis-à-vis des clients qui attendent beaucoup de services de la part de ceux qui travaillent ou qui dirigent les opérations au niveau de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi?
Walter, la volonté d'échanger les choses est là et on peut bien le constater. Parce que il y a pas très longtemps, dans un passé fort récent, la RVA a acquis vraiment 3 camions anti-incendie qui ont une capacité de 24 litres chacun. Donc à cela, et ce camion peut bien faire face à tout incendie qui pourrait se déclarer au niveau de l'aéroport. C'est pratiquement un point positif qu'il faut encourager. Ça et là, on voit que les murs sont en train de recevoir un coup de brosse, c'est aussi bien, et on peut voir des fleurs ça et là, mais bon. Ce sont des efforts qui sont entrepris et la population, si pas les usagers de l'aéroport, voudraient voir un peu ces genres d'actes qui sont posés assez régulièrement pour le bénéfice de tout cela qui arrive à Lubumbashi ou qui part de Lubumbashi vers d'autres questions alternes.
Et voilà, merci Jean-Lando pour toutes ces informations. Je rappelle que les auditeurs peuvent intervenir, fournir des informations supplémentaires, complémentaires, par rapport à tous les sujets que nous leur proposons. Il s'agit d'appeler au 081-890-68-90. Notre standard est ouvert, c'est Arlette Mouilly qui est posté juste à proximité pour recevoir les participations de nos auditeurs. Jean Gandou, merci encore une fois et bonne journée à Lubumbashi.
Merci, au revoir Walter.
Au revoir. Okapi, Okapi.
Okapi. Dialogue entre Congolais, l'actualité mise en lumière. Chaque soir à 19h15, heure de Kinshasa, les événements du jour sont expliqués sur les ondes de Radio Okapi. Des interviews, des analyses, des débats d'actualité, dialogue entre Congolais, 45 minutes pour mieux comprendre le processus démocratique en République démocratique du Congo. Cette émission est rediffusée le matin à 5h45, heure de l'Est du pays.
Eh bien, ça sera ce soir, hein. Paul Madidi avec toute l'équipe, Thérèse Kankou, Franklin Moliba-Cissé, comme tous les vendredis. Par ailleurs, vous le savez, c'est avec les confrères journalistes qui viennent commenter l'actualité brûlante à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, probablement, je donne mon doigt à couper, à moins que Paul ne me contredise. Ça sera autour, évidemment, de cette mesure, des suspensions de quelques organes de presse, décision prise par le ministère de l'information et la presse. Vous avez même suivi d'autres réactions des ONG de défense des droits à des journalistes. En tout cas, je donne ma main à couper. On reste branché, ça sera ça ce soir, évidemment. Mais c'est Okapi Action, c'était une promo, un clin d'œil pour nos collègues de notre magazine DEC, Dialogue entre Congolais, comme on dit ici. Okapi Action, nous on poursuit. Je vous rappelle que pour ce premier sujet, nous évoquions la situation, si vous voulez, une carte postale de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi par rapport à certaines difficultés où les usagers ne savent pas avoir. Si vous voulez, c'est résumé, où va l'argent que perçoit la RVA dès lors qu'il ne voit pas très bien beaucoup de changements. Alors, des questions des auditeurs. Victor ou Victoria Omande, notre cher ami de Goma, merci beaucoup. C'est un fidèle auditeur, un très très fidèle, un inconditionnel de Okapi Action, je pourrais le dire. Il voudrait savoir quelles sont les conditions pour avoir accès au tarmac de manière générale au Congo et combien de dollars doit-on payer pour cela. Ah oui, parce qu'aussi à Goma, le tarmac n'est pas accès. Tout le monde n'accède pas au tarmac, il faut avoir une autorisation spéciale. On va chercher à avoir des gens de la RVA pour répondre à cette question, cher monsieur Victorien Oumandé. Dans Okapi Action, tout à l'heure, nous nous rendrons à Kassindi, c'est à 80 km au nord de Beni. Kassindi, c'est un poste douanier. Et la nouvelle que nous apprenons de là n'est pas très réjouissante. En fait, les autorités provinciales du Nord Kivu ont confirmé que la fraude se généralise à ce poste douanier. Comment ça se fait? Comment ça se développe? On saura tout à l'heure. Des réactions peut-être, des questions, infos complémentaires sur la fraude à Kassindi ou dans d'autres postes douaniers, évidemment. Ça peut être aussi bien Bunagana que Kasumbalesa ou Matadi. N'hésitez pas à nous en faire part. Appelez au 081-890-6890. On se retrouve dans quelques instants.
Okapi.
Okapi à Matadi sur 102 FM.
Nous allons dans le Bas-Congo, à Moanda. Moanda, c'est l'unique ville de la République démocratique du Congo qui vous donne accès à l'océan. Ah ça c'est, il y a une très très belle plage, d'ailleurs je dis Kachama est passé par là, il n'y a pas longtemps, c'était l'année passée. Les problèmes sont multiples malheureusement, Moanda il y a du pétrole, Moanda il y a la plage, mais les habitants ne savent pas jouir de tous ces bienfaits. Moi je ne suis pas encore arrivé à Moanda, mais je voudrais bien y aller un jour, peut-être que Jean Dombassi va me convaincre, hein, me raconter tout ce qui s'y passe. Jean Dombassi, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Moanda, pour arriver à Moanda, il faut partir de Boma, et c'est par la route qu'on y arrive. Comment se présente cette route-là?
Bon, la route Boma-Moanda est longue de 104 km, c'est un véritable casse-tête chinois. Il faut au moins 6 heures avec les 4x4, et puis 8 heures avec des Land Cruiser. Bon, vous voyez que ça ne va pas. C'est depuis longtemps que nous attendons la réhabilitation de cette route. L'exécutif provincial du Bas-Congo n'a pas assez de moyens. C'est le gouvernement qui doit faire ce travail. Mais sinon, ça ne fait pas bon de voyager sur la route Boma-Moanda. Si vous osez, vous avez des courbatures, vous avez aussi le cas des hémorroïdes. Hein. Donc il faut se méfier. Donc, à Moanda, on préfère s'adapter au roulement de la vedette Kalamu. Bon, la vedette Kalamu fait des roulements par semaine, donc les mardis, ça descend à Moanda, et puis les mercredis, ça monte à Boma. Vendredi, ça descend encore à Moanda, et puis samedi, ça monte à Boma. Mais il y a un problème, pour avoir le billet de cette vedette Kalamu, c'est comme si vous cherchiez un visa à Kinshasa.
Ah pourquoi hein? Pourquoi, Jean Dombassi?
Bon, il faut se réveiller à 3h45, il faut trop de manœuvres, il y a trop d'intermédiaires. Le billet qui se vend officiellement à 10$ est marchandé à 15$. Le billet de la deuxième classe qui se vend à 6$ est marchandé même à 12, pourquoi pas à 13$. Donc, pour avoir ce billet de la vedette Kalamu, c'est vraiment aussi un casse-tête chinois.
Mais ouais. Jean Dombassi, je dois dire aux auditeurs que vous êtes journaliste, vous êtes directeur des programmes de la radio communautaire de Moanda, une radio partenaire à Radio Okapi. Mais bon, vous êtes une radio communautaire, ça veut dire probablement que vos programmes se développent sur la vie quotidienne, plus proche des habitants de Moanda. Comment vivent les habitants de Moanda, à Moanda?
Bon, la vie à Moanda, ce n'est pas facile. Vous savez, comme cette route est impraticable, il y a des conséquences directes, parce qu'il y a à tout moment un rupture des produits alimentaires vivriers en provenance du Mayombe. Et puis, il y a surenchère sur les marchés. Mais à Moanda, ce qui est bon, il y a plusieurs, il y a les poissons, il y en a beaucoup, il y en a à gogo sur le marché. Ça se vend aussi à un prix passable.
Ah. Voilà. Ouais. C'est quel type de poisson, Jean Dombassi?
Ouais.
Quel type de poisson on peut manger, consommer à Moanda? Parce que il faut savoir que tous les auditeurs qui nous suivent pourront peut-être venir s'il y a du bon poisson. Hein?
Oui, il y a du bon poisson. Il y a du poisson de l'océan, il y a du poisson, il y a de notre fleuve Congo. Donc, c'est vraiment varié. Hein? Il y a plusieurs variétés, mais il y en a beaucoup et puis c'est vendu à moins cher ici.
Mais il y a aussi les Kosa Kosa, Jean Dombassi.
Oui, il y a aussi des Kosa Kosa, des crevettes, il y en a beaucoup. Mais sachez que les pêcheurs aussi sont en difficulté ici à Moanda. Pour le moment, c'est depuis le 8 novembre en Tiamfumu, trois pêcheurs sont disparus sur la haute mer. Selon les informations à ma possession, ces trois pêcheurs ont été retrouvés à Mayumba au Gabon. Deux vivants et l'autre mort. Donc, ces deux pêcheurs qui sont à Mayumba ne sont pas en mesure de regagner Tiamfumu. Il paraîtrait que notre ambassade au Gabon n'a pas de moyens pour les rapatrier dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, chaque jour qui passe, nous avons des poissons à gogo, mais ça cause aussi de l'insécurité auprès de nos pêcheurs, surtout ceux qui vont pêcher au niveau de la haute mer.
Mais quel type d'embarcation utilise-t-il pour aller dans la haute mer?
Bon, ce sont des petites embarcations en bois qui les permettent d'aller faire la pêche.
Ouais. Mais est-ce qu'ils sont organisés en association peut-être des pêcheurs au niveau de Moanda pour essayer d'analyser ensemble leurs problèmes et de les soumettre en même temps à qui des droits?
Oui, les pêcheurs de Moanda sont bel et bien organisés en association. Il y a deux associations ici. Les pêcheurs qui font leurs activités au niveau du fleuve Congo sont organisés à partir de Kimwadi, où il y a une association là-bas. Et puis, ceux qui font la pêche sur l'Atlantique sont aussi organisés à partir de Tiamfumu. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. À tout moment, lorsqu'ils sont en difficulté, ils soumettent leurs problèmes auprès de l'autorité locale, Gilles Nzuzi Tonabwanga.
Jean Dombassi, dites-nous, quelles sont les principales voies de, si vous voulez, d'évacuation ou les principaux marchés vers lesquels sont déversés les Kosa Kosa et les poissons qui est pêché dans l'océan à partir de Moanda?
Bon, c'est concernant Moanda, il y a une partie qui va à Kinshasa, Matadi, Boma, tout ça. Et puis, il y a aussi une grande partie qui est fabriquée en poisson salé, quoi, transformé en poisson salé, tout ça vendu dans les maillons.
Est-ce que ce matin vous avez mangé du Kosa Kosa, Jean Dombassi?
Oui, il faut venir à Moanda, il y en a beaucoup.
Bon, merci, je vais venir. Restons au bord de l'océan pour admirer cette magnifique plage de Moanda, ce cadre touristique. Est-ce que la plage est exploitée au point de vue touristique à Moanda?
Bon, la plage de Moanda, c'est un véritable patrimoine de la République démocratique du Congo. C'est devenu une parc d'attractions, surtout le week-end. Tout le monde descend pour aller se distraire, mais nous déplorons une chose au niveau de la plage de Moanda. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de vestiaire pour s'échanger, il n'y a pas de toilettes. En tout cas, on préfère aller dans la brousse avec risque de se faire mordre par un serpent. Alors, le parc de Tonde de Moanda à bord de l'océan Atlantique est géré par l'ICCN, donc l'Institut congolais
pour la conservation de la nature.
Alors, ce que nous nous demandons quand nous sommes sur place, si l'ICCN n'est pas en mesure de fiabiliser la plage de Moanda, nous voulons que cette plage soit confiée auprès de l'ONT, Office National du Tourisme. Et si l'ONT n'est pas en mesure, il y a des opérateurs économiques ici qui peuvent transformer cette plage-là. Mais sinon, au moment où je vous parle, ce qui révolte les gens, il n'y a pas de vestiaires et de toilettes.
Donc, en clair, on peut dire que notre belle plage de Moanda n'est pas entretenue ni même exploitée au maximum.
En tout cas, non.
Mais il y avait quand même, Jean Dombassi, j'ai appris par certains écrits, qu'il existait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Mangrove. Est-ce qu'il est toujours opérationnel?
Malheureusement, l'hôtel Mangrove existe, mais en état de délabrement avancé. D'ailleurs, pour le moment, c'est occupé anarchiquement par des militaires. Il n'y a rien là-bas, il n'y a plus rien.
Mais alors, si des visiteurs viennent à Moanda, vous nous avez dit, oh Walter, venez à Moanda. Il y a des auditeurs qui voudront bien venir à Moanda. Si on vient à Moanda, comment on sera logé? On va aller dans quel hôtel? Parce que le tourisme, ça va de pair avec l'hôtellerie.
Bon, il y a un problème à Moanda, il y a quelques hôtels qui émergent. Mm. C'est le cas des ABC Junior, c'est le cas des New Cliff au bord de l'océan. Il y a plusieurs hôtels ici, on peut avoir un logement facilement, mais le problème en est que dans ces hôtels, il n'y a pas de restaurant. Donc il y a un risque que vous preniez une boîte de sardines puis un morceau de pain. C'est ça qui fait un peu mal, il n'y a pas de restaurant vraiment bien organisé. C'est seulement chez New Cliff où les choses sont bien organisées. New Cliff est situé au bord de l'océan Atlantique.
Mais Jean Dombassi, pour construire des hôtels ou des bons restaurants, là on ne va pas attendre l'ICCN, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, encore moins l'Office National du Tourisme. Est-ce qu'il n'y a pas tous ces opérateurs économiques qui brassent les dollars de l'exploitation du pétrole à Moanda, ne cherchent pas à investir dans l'hôtellerie et dans le tourisme notamment?
Bon, je sais que pour le moment ce n'est pas leur préoccupation, mais nous on est en train de faire des émissions à partir de notre radio, la radio communautaire de Moanda, pour leur dire que Moanda c'est un coin touristique. Il est vraiment impensable pour des visiteurs qui nous arrivent de ne pas bien se restaurer. Donc vous construisez vos hôtels, c'est bien, mais il y a quelque chose qui manque, c'est avoir une bonne restauration.
Mm-hmm. Ouais. Mais lorsqu'on parle Moanda, d'ailleurs on vient de l'évoquer tout à l'heure, on pense au pétrole, pétrole à Moanda, ça pose un problème de l'environnement, il n'est pas bon de respirer l'air de Moanda à cause de tous ces puits de pétrole qui polluent la ville. Est-ce qu'il y a parfois des mesures qui sont prises pour essayer d'atténuer un peu les méfaits de la pollution?
Bon, à mon avis, la pollution existe ici à Moanda, mais ce que nous regrettons, même ces sociétés pétrolières qui sont à la base de cette pollution payent la taxe de la pollution ailleurs, pas à Moanda au niveau du territoire. C'est ce que nous déplorons. Mais la pollution existe. Mais sur le plan environnemental, il n'y a aucune disposition prise pour protéger la population.
Ça reste donc beaucoup à faire. Mais l'autre problème, c'est aussi que Moanda n'est pas électrifié.
Ah, là, c'est un problème crucial. La radio communautaire de Moanda est en face de la SNEL au moment où je vous parle. Mais nous, on enregistre plus de 17 coupures par jour. C'est impensable. La SNEL Moanda a réellement des problèmes. Les deux groupes à gaz ont vieilli. Mais en dehors de ça, il y a une mauvaise foi des agents de la SNEL. Ils sont très malhonnêtes. Ils préfèrent envoyer du courant dans des maisons de leurs frères et cousins. Ils préfèrent envoyer du courant là où ils ont installé leurs moulins. Mais ce qui se passe ici à Moanda, c'est vraiment dramatique. Tout Moanda est dans le noir. D'ailleurs, nous venons de saluer le gouvernement congolais qui vient d'acheter un groupe électrogène de 650 kVA pour la base de Kitona. Donc même la base de Kitona était dans le noir. Mais pour le moment, nous pensons que nos militaires qui sont à la base seront éclairés. Ils seront aussi à mesure d'avoir l'eau à tout moment. Mais au niveau de la cité, c'est la catastrophe.
Mais que fait le maire de la ville de Moanda? Est-ce qu'il fait quelque chose par rapport à ça?
Bon, le problème de la SNEL ici, c'est un problème vraiment complexe, quoi. Je pense que pour la cité côtière de Moanda, il faut seulement ramener l'électricité d'Inga qui traîne à partir de Boma ici. Ça demande beaucoup d'argent. Bon, dans tout ça, bon, c'est le gouvernement qui doit faire quelque chose. Mais sur le plan local ici, il y a un projet. Je pense que si les choses marchent très bien, cette année, Père Incorrect Nioc, donc une grande société pétrolière de la place, qui entretient ses vieux groupes et qui donne aussi le gaz gratuitement, peut faire quelque chose dans le sens d'améliorer un peu ces groupes qui ont vieilli, qui datent de 1991.
Oui. Jean Dombassi, ceci va être ma dernière question. À votre avis, vous qui vivez au quotidien la réalité à Moanda, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Moanda puisse offrir le beau cadre touristique qu'il est à tous les Congolais et à tous les étrangers qui voudraient bien venir passer du beau temps à Moanda?
Oui, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, il faut réhabiliter la route Boma Moanda. En tout cas, cette tâche n'est pas provinciale. Le gouvernorat du Bas-Congo n'a pas assez de moyens pour réhabiliter cette route. Donc c'est le gouvernement congolais qui doit mettre des moyens pour réhabiliter cette route long de 104 km. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nous ramener l'électricité Dinga ici. Et la troisième chose, sur le plan local, les opérateurs économiques de Moanda doivent se réveiller pour continuer à construire des hôtels avec de très bonnes infrastructures, sans oublier aussi une très bonne restauration. C'est ce qui permet quand même aux touristes de notre pays, hein, les Katangais, les Kassayais, ceux qui sont à Butembo, qui veulent venir à Moanda, je pense qu'ils seront vraiment à l'aise. Mais pour le moment, les rares touristes qui nous arrivent, bon, ils nous arrivent ici par avion, et puis ils repartent ici par avion, et pourtant ils ont des jeeps, des belles voitures qui peuvent arriver ici à Moanda. Voilà ce qu'il faut faire, mais en tout cas, en dehors de ça, bon, il y a la paix à Moanda, donc il n'y a pas d'autre chose à signaler, même si nous sommes au milieu de deux bases, la base navale de Banana, la base militaire de Kitona. Les choses marchent très bien, les militaires sont disciplinés, personne n'est dérangé, nous circulons librement.
Alors pour se dire au revoir, Jean Dombassi, dites-nous, quand vous observez le soleil se coucher sur l'océan, ça vous fait quelle image? C'est quelle image que vous voyez? Ça vous fait quel effet?
Bon, nous on est heureux, hein? C'est la porte d'entrée de la République démocratique du Congo.
Et le coucher du soleil, quand vous l'observez sur l'océan, c'est quelle image, quelle carte postale?
Il y a une très belle carte postale, mais il faut venir à Moanda et observer ce qui se passe.
Bien, alors il y a un auditeur qui veut savoir, c'est Dominique Kanongé de Lubumbashi. Qu'en est-il du pétrole de Moanda au juste? Est-ce que ça continue à être pompé régulièrement? Est-ce que les populations en bénéficient?
Le pétrole de Moanda, c'est un patrimoine de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le territoire de Moanda, c'est le territoire le plus riche du Bas-Congo. Ce pétrole contribue beaucoup au budget national. Mais sur place ici, les sociétés pétrolières, les comités de concertation, donc c'est comme des notables. Et puis le territoire de Moanda a un cadre qui existe et chaque année, ces sociétés pétrolières mettent à la disposition du territoire de Moanda une enveloppe de $210,000. C'est pour les œuvres sociales ayant trait à l'éducation, santé et intérêt commun.
Mais on a appris quand même que ces $210 sont insignifiants par rapport à ce qui est sorti du sous-sol de Moanda.
Oui, les $210,000 ne représentent rien. Mais c'est quand même beaucoup parce que je vois à tout moment des écoles réhabilitées, des centres médicaux réhabilités, beaucoup de choses ici avec les sociétés pétrolières. Même la radio communautaire de Moanda est assistée l'année passée avec un matériel d'une valeur de $3,500. Mais le comité de concertation de l'autorité locale réclame que cette enveloppe soit un peu augmentée pour permettre à faire réaliser beaucoup de choses ici à Moanda.
Voilà. Jean Dombassi, je rappelle que vous êtes directeur des programmes de la radio communautaire de Moanda. Nous parlions avec vous depuis Moanda, sur les côtés de l'océan Atlantique. Vous avez l'océan juste en face de vous. En attendant que nous venions à Moanda, et les auditeurs qui le voudront bien, profitez seuls de l'océan Atlantique, mais gardez-nous un peu de Kosa Kosa et du bon poisson.
Voilà, merci beaucoup.
Au revoir, Jean Dombassi.
Au revoir, c'est moi qui vous remercie.
Okapi Action, la deuxième partie qui démarre avec cette situation qui prévaut au niveau du poste frontalier de Kassindi. Nous sommes à 80 km de la ville de Beni, au Nord Kivu. Ce poste frontalier est reconnu par les autorités provinciales du Nord Kivu comme étant l'un des plus réputés pour la fraude. Les recettes de l'État sont de plus en plus en baisse. Moins de 25% des recettes sont actuellement versées dans le compte du Trésor public. Le point avec Gisèle Cage.
À la frontière de Kassindi, ici s'effectue le trafic transfrontalier entre le Grand Nord de la province du Nord Kivu en RDC et l'Ouganda. Le gros des marchandises importées de l'étranger passerait ici sans document valable, selon des témoins. Il s'agit notamment du bois, comme l'indique cet agent de l'environnement rencontré sur place.
Presque un dixième de 20 kilos ne paye pas les taxes de l'État sur les bois. Nous sommes inquiétés parce que les 20 kilos passent toujours par les militaires. Nous voulons que le gouvernement aussi puisse nous aider pour travailler dans une transparence.
Le vice-gouverneur en charge de l'économie et des finances, Kaïsavira Mbake, confirme lui aussi la fraude généralisée au poste frontalier de Kassindi. C'est une contrebande organisée, déclare-t-il.
Les militaires se mêlent carrément de cette histoire de fraude pour menacer, pour terroriser les douaniers, pour traiter avec toujours encore ici ces agences à douane, ou que les agences à douane vont solliciter les militaires pour dire que voilà, écoutez, nous avons la marchandise à faire passer, intervenez, comme ça nous allons payer autant. Donc avec la complicité de tous ces gens, des agences à douane, alors voilà qu'une bonne partie, notamment du carburant, passait carrément en fraude. Surtout le carburant. Parce que là, c'est plus facile. C'est plus facile, vous importez 40 mètres cubes ou 80 mètres cubes, on sait que vous devez payer par exemple 10 000 dollars à l'État, et quand ça passe, on vous donne seulement 3 000 ou 2 000. Voilà, le ministère, qu'est-ce qu'il veut? Il prend.
L'autorité provinciale reconnaît aussi que la province a actuellement des difficultés dans l'encadrement des recettes de l'État à cause du retard pris dans le processus de réunification fiscale effective de la province du Nord Kivu. La situation de fraude généralisée est doublée par l'émission depuis 2 mois des documents d'exonération par le ministère de Finances pour certains opérateurs économiques de Beni Boutembo.
Le principe est bon. C'est comme ça, on peut l'aider. Parce qu'il encadre les travailleurs, il fait ceci, on peut l'aider, mais dans le cadre strict de son activité. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous donnez une exonération, par exemple, à l'ENRA pour importer une quantité tellement supérieure à ce que l'ENRA consomme, et les 3/4 de ce carburant passent sur le marché. Les commerçants maintenant, d'autres non exonérés, passent par celui-là qui a déjà la déclaration pour tout exonérer, et tous les carburants passent sur le marché.
De son côté, le responsable de la FEC, Fédération des entreprises du Congo de la ville de Beni, nie toute implication des commerçants dans la fraude au niveau de Kassindi. Monsieur Damien Kamaché, président de la FEC.
C'est faux, c'est archi faux, puisque moi je peux dire que ce sont même les autorités qui sont à la base de cette fraude, puisque tous les services de l'État sont représentés ici chez nous. Alors comment on peut faire la fraude? Donc si on fait la fraude, donc ce sont des qui sont à la base. Mais dire l'opérateur non, quand on demande à l'opérateur de payer autant, et il paye. Et là-bas on peut dire que c'est une fraude, madame, quand vous avez votre document, qui est correct et délivré par un responsable d'un service. Je ne peux pas dire que là-bas il y a une fraude. C'est peut-être un maintenant qui fait cette fraude.
Cet avis n'est pas partagé par le premier président de la FEC au niveau provincial à Goma. On écoute M. David Katumbi.
Il y a fraude, il y a une évasion fiscale que nous pouvons qualifier puisque c'est inadmissible. Un opérateur économique puisse passer par Beni ou par Boutembo et vous prenez encore l'addition des tarifs Boutembo jusqu'à Goma ici. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez vous retrouver dans votre prix de revient. Donc on comprend facilement qu'il y a fraude fiscale et c'est ce qui s'implique. Nous nous sommes même rencontrés avec le gouverneur pour essayer un peu de voir, dans le bref délai, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la réunification réellement économique. Et même le président, je crois, le président de la FEC, compte, envisage quand même de faire une descente vers le Grand Nord avec une équipe pour essayer un peu de faire l'évaluation.
Pour certains observateurs au niveau de Beni, la fraude a été accentuée avec la rébellion. Nikes Kibeloka.
La fraude, elle date de longtemps. Elle a été accentuée à l'époque de la rébellion.
par deux phénomènes. Il y a d'abord le phénomène de ce qu'on appelle le préfinancement, c'est-à-dire que la rébellion a besoin de 100 000 dollars, il va voir le commerçant lui donne, il lui fait une décharge spéciale qui exonère ce produit. Bon, le commerçant est plus malin que le rebelle, il peut mettre 6 mois sans alors comptabiliser ça fait combien. Ça, c'est parmi les pratiques. La deuxième pratique, c'est en fait l'enrichissement illicite. Donc là, le commerçant pratiquement organise, parce qu'un commerçant a toujours besoin de bénéfices, il y a l'absence totale de l'État. Dans un État faible, c'est-à-dire l'État RCD-KML était un État très faible, et complice de la fraude, tout le monde a fraudé, c'est tout.
Jusqu'au 10 août 1998, le Grand Nord produisait 65% de recettes douanières globales de la province du Nord Kivu, d'après les responsables de l'Office des douanes et assises OFIDA, alors que Goma ne produisait que 35%. Actuellement, le rôle de deux zones dont les recettes fiscales de la province du Nord Kivu ont été inversées. Le Grand Nord n'atteint même plus 25% de recettes.
Et voilà le point de la situation que vient de nous fournir Gisèle Cage. Des réactions, des suggestions, appelez dès maintenant au 081-890-68-90. Premier intervenant, nous allons avoir tout à l'heure le responsable de l'OFIDA pour le Grand Nord.
En FM, sur Internet, par satellite, Okapi, la radio proche de vous.
En direct, Monsieur Gustave Kiro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur de l'OFIDA pour la partie rationnement sous contrôle du RCD KML. Vous avez suivi ces résumés qu'a fait ma consoeur Gisèle Cage, qui s'est rendue à Kassindi il y a quelques semaines. Un commentaire?
Ce qui m'intéresse surtout, c'est les commentaires en sens divers qui sont faits en ce qui concerne la fraude à Kassindi, mais j'aimerais d'entrée de jeu dire qu'effectivement, on aurait nié qu'il y a effectivement de la fraude à Kassindi, mais sauf que c'est pas un phénomène général, c'est un phénomène plutôt marginal. Merci.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que, de lors que l'on sait que le poste de Kassindi contribuait pour au moins 60%, d'ailleurs un peu plus, pour toutes les recettes provinciales du Nord Kivu avant, à l'époque, et qu'aujourd'hui, on apprend qu'on n'atteint même plus 25% de participation?
Bon, vous allez m'excuser, mais en ce qui concerne les recettes douanières, du Grand Nord ici, elle se chiffre à quelque chose comme 500 000 dollars par mois. Alors, je ne sais pas si l'information là que vous donnez en ce qui est concernant les 25%, elle est réelle.
Nous avons appris des sources de la direction provinciale à Goma.
Moi, je vous informe que nous produisons ici au Grand Nord quelque chose, nous produisons autour de 500 000 dollars par mois.
Oui, mais lorsque on évoque cette fraude, on a même entendu, notamment le vice-gouverneur chargé des questions économiques, M. Kaïssa Virambake, dire que il y a des implications même de la part des militaires. On a entendu un responsable de la FEC au niveau de Beni qui dit que les autorités sont à la base de cette fraude. Que répondez-vous à ça? Parce que vous êtes dans les lots des autorités.
Bon, je crois que les phénomènes de fraude qui sont visibles ici sont le fruit, n'est-ce pas, de la situation politique du pays. Vous savez, bon, nous sommes dans un contexte de réunification à pas de tortue. Nous sommes dans un contexte d'insécurité généralisée avec les guerres à répétition, surtout au Kivu ici. Et vous comprenez que dans ce contexte-là, surtout quand on sait que qu'il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau de l'armée, bon, il est tout à fait. Bon, je crois que c'est tout cela qui explique que les militaires aient tendance des fois à s'impliquer dans les opérations de fraude qu'ils justifient eux-mêmes des fois par la nécessité de s'approvisionner notamment en carburant pour aller au front. Merci beaucoup.
Mais il y a aussi cette tendance les interventions acclimées de certains officiers qui viennent faire pression au niveau de l'OFIDA pour faire des douaniers des marchandises de tel ou tel autre opérateur économique moyennant argent. Ce phénomène existe encore, M. Augustin.
Bon, c'est vrai tout ça, mais encore une fois, c'est un phénomène marginal à dire vraiment que nous sommes dans un contexte généralisé de fraude. Je crois que ça serait très faux. Effectivement, il y a des cas pareils, mais je crois que c'est pas général, quoi. C'est vrai tout ça.
Pour les cas, admettons que ce ne soit pas général, mais que ce soit des cas, si vous voulez, qui sont observés, à votre niveau, en tant que coordonnateur de l'OFIDA de ce côté-là, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour les fiscaux diminuer sensiblement cette fraude?
Oui, il y a un certain nombre de mesures que nous prenons pour essayer de diminuer un tant soit peu la fraude ici. Il y a premièrement la sensibilisation des opérateurs économiques par le biais de la FEC. Nous avons des rencontres régulières avec la FEC où nous leur faisons comprendre que la fraude elle mène à rien, parce que finalement le jour où les fameux militaires qui sont impliqués dans la fraude ne seront plus ici, on pourra les poursuivre toujours, parce que la prescription elle dure quand même des années en douane. Il y a aussi la mise en œuvre des stratégies repressives, hein, c'est-à-dire que nous avons renforcé la brigade douanière, et nous essayons de réprimer au maximum la fraude, hein. En sévissant par rapport aux gens qui sont, disons, par rapport aux opérateurs économiques et aux commissionnaires en douane qui sont impliqués dans la fraude. En troisième lieu, je veux parler des réunions que nous tenons régulièrement avec les militaires. Et pour votre gouverne, la dernière fois que, disons, lors du dernier passage du commandant région militaire, le général Amissi Tangofo, il y a eu une rencontre entre lui et les douaniers. Au cours de laquelle il nous a vraiment promis son aide dans le sens de dissuader les militaires de se compromettre dans la fraude.
Mais lorsque vous dites que vous sanctionnez, qu'il y a des sanctions, notamment pour des raisons de fraude, est-ce qu'il y a un cas récent que vous pouvez nous citer, peut-être de mémoire, pour nous prouver que vous avez déjà sanctionné ces types de fraude?
Oui, nous n'avons pas ça en tête, mais je peux vous citer il y a certains cas où il y a des commissionnaires en douane, des déclarants qui ont remis l'argent aux militaires, 15 000 dollars même, je crois, et finalement, nous avons ouvert le dossier contentieux à l'encontre de ces importateurs, et ils ont dû payer pour une deuxième fois. Il y a des cas comme ça. Mm-hmm. Ça existe.
Les phénomènes de préfinancement où on donne de l'argent à l'avance par un opérateur économique au niveau, en tout cas, des autorités militaires, et les commerçants tournent avec l'argent, entre guillemets, pendant quelques mois, et puis après, ils viennent payer après.
Bon, les quelques cas que moi je connais concernent le cas de certains militaires qui vont effectivement prendre de l'argent chez des importateurs. Soi-disant, pour des raisons militaires, ils disent qu'ils doivent emmener les troupes au front, ils disent qu'ils doivent nourrir la troupe et tout ça. Ça, je connais certains cas comme ça, mais encore une fois, c'est pas des phénomènes généralisés, non.
Mmh. Alors, ça va être ma dernière question, Gustave Kiro. Je vais vous poser la dernière question. On sent encore comme s'il n'y a pas vraiment eu une vraie réunification économique au niveau de la province du Nord Kivu. Comment ça fonctionne actuellement?
Oui, bon, ça fonctionne comme ceci, c'est-à-dire que le Nord Kivu n'est pas réunifié pour des raisons que vous pouvez deviner. Donc c'est un processus. Bon, il a été nommé un gouverneur pour tout le Nord Kivu, mais bon, il faut dire la vérité, il n'a pas encore vraiment la même mise sur ici. Bon, il a été nommé un commandant région militaire, il faut dire la vérité, il n'a pas encore vraiment la même mise sur le Grand Nord ici. C'est un phénomène, c'est quelque chose qui va mollo, hein, donc on ne sait pas y aller rapidement, donc certainement que ça va finir par arriver. Donc c'est question de ne pas brûler les étapes et de comprendre que nous sommes dans un processus qui va prendre du temps, effectivement.
Et voilà, monsieur Gustave Kiro, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le coordonnateur de l'OFIDA, Office des douanes et accises pour le Grand Nord, dans le Nord Kivu. C'était la partie anciennement sous contrôle du RCD KML.
Je peux rectifier, c'est pas Gustave Kiro, mais Grégoire.
Plutôt Grégoire Kiro. D'ailleurs, on vous appelle Grégo pour ceux qui vous connaissent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très prochainement sur nos antennes. Nous espérons que vous répondrez encore à nos préoccupations.
C'est moi qui vous dis merci.
Merci beaucoup.
Okapi, le souffle du Congo. Okapi.
Bien, voilà, nous poursuivons l'examen de cette question par rapport à cette fraude dont on fait allusion à partir du poste de Kassindi. Je rappelle que là, on est à 80 km au nord de Beni. Beni, c'est dans le nord Kivu. Nous avons en ligne depuis Beni, Monsieur Bounze Alphonse. Monsieur Bounze Alphonse, bonjour.
Oui, bonjour, M. Alter.
Vous êtes président des transitaires et commissionnaires en douane dans le Nord Kivu, principalement dans la partie extrême nord, qu'on dit souvent les Grands Nords. Lorsque on évoque cette question des fraudes, est-ce que vous confirmez ou vous niez?
Bon, confirmer ou nier, ce sont deux mots. J'aimerais d'abord commencer par le dossier du bois. Le dossier de bois qu'on a parlé. Pour 40 mètres cubes de bois, pour 40 mètres de cubes de bois exportés, l'argent qui revient à l'État, c'est $264. C'est-à-dire qu'il y a une détaxe pour favoriser les opérateurs économiques dans cette matière pour l'exportation de bois. Bon, quand notre ami dit que sur 10 véhicules importés, il y a à peu près un véhicule qui paye la douane, je pense, comme a dit notre ami Grégoire Kio, le coordinateur de l'OFIDA, avec le passage des temps forts, mes amis, ici, je crois que cet élément ne tient plus debout. Donc, actuellement, nous avons encore réuni les opérateurs économiques, nous avons encore réuni avec toutes les agences en douane et commissions en douane, pour que toutes les marchandises qui sortent de notre pays puissent bien payer le droit de taxes qui revient à l'État. Même si c'est $1, ils seront versés à la caisse de l'État. Ça, c'est le premier élément. Donc, pour le véhicule de bois, la fraction n'était pas tellement normale. C'est-à-dire qu'il y a effectivement certains véhicules qui pouvaient partir par le hold-up, organisé, qui volatilisait. Mais nous tenons à cœur les dernières recommandations faites par notre général Anis Dit Angofort.
C'est quoi ces recommandations?
D'ici fin du mois, il aura des résultats assez palpables à ce sujet. Ça, c'était pour le bois.
Mais oui, c'est-à-dire, dites-nous, M. Bounze, quelles sont ces recommandations du chef d'état-major de cette région militaire?
Oui, au cours de la réunion que nous avons tenue avec lui à l'hôtel Beni, vraiment, il a tapé sur la table pour dire que nous devons aider l'État à régénérer la canalisation des recettes qui lui revient. C'est-à-dire que nous devons éviter la fraude, nous devons plus nous lier au processus qui est en cours afin que l'État trouve son image d'antan.
Mais selon nos informations, ce que vous, transitaires et commissionnaires en douane, vous êtes vraiment très impliqués dans cette fraude.
Effectivement, on est dit, mais quand on fait le paramètre d'affaires, c'est-à-dire que si je donne 10 ans d'existence, ce qui s'est passé en 1984, c'est avec en 1974, avec la vie actuelle, je trouve que les agences en douane sont inutilement incriminées. Je parlais du mot hold-up. Vous connaissez ce système, comment ils s'opèrent?
Moi, je ne les comprends pas. Moi, je ne les connais pas, le système hold-up, si vous pouvez nous l'expliquer.
Oui, le système hold-up, c'est-à-dire que c'est une fraude parfois qui est organisée, orchestrée par des éléments armés, où ni l'OFIDA ni la douane, on n'intervient pas. Comme a dit le vice-gouverneur en charge des finances lors de son passage, il a remarqué ce fait, et ce fait a été réprimandé. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on tient encore l'œil à ces propos, avec la dernière rencontre faite ici avec le général Amis du Tangofort. Je crois que ce système va disparaître lentement, mais pourvu que les militaires retrouvent aussi leur butin, c'est-à-dire que l'État prenne en charge tous ces gens qu'il envoie ici pour essayer de nous lutter, pour essayer de lutter afin de répondre aux objectifs de la sécurisation de personnes et leurs biens, et que ceci soit réellement à la protection de la population, à vous.
Voilà, vous avez parlé d'une marchandise qui s'appelle le bois, mais il y a aussi d'autres marchandises qui sont concernées par la fraude, notamment des minerais, notamment des pointes d'ivoire.
Oui, bon, mon second point, avant que je n'arrive là-bas, je voulais passer au point le plus sensible, c'était les carburants.
Oui, le carburant.
Son Excellence, le vice-gouverneur, M. Kassagra Mbaké, a évoqué ce point. Effectivement, ce phénomène existait. Je crois qu'à un certain moment, nous devons nous référer à... Il y a une organisation qui gère la douane. La douane n'est pas congolaise, Ça, je vais signifier ça. La douane est gérée par l'OMD, l'Organisation Mondiale de la Douane. Il regroupe 162 pays, dont le Congo est membre. le Congo est membre. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Je donne le cas de Gazol. Nous, au sein de notre gouvernement ici, pour le produit pétrolier, le gazole, comme j'ai dit, pour dédouaner le gazole, il faut payer au moins 55,1% des droits et taxes. Donc quand vous achetez votre carburant à moins de 1800 km ici à Kisumu, vous payez par exemple 20 000 $, vous devez payer pour l'État plus de 14 000 $. Vous sentez que les recommandations de la Banque mondiale et du FMI qui avaient dit qu'il faut supprimer la surtaxe des produits pétroliers afin d'alléger la misère de la population. Cet élément n'est pris en compte, ça c'est un. De deux, en supprimant, si on payait par exemple pour les produits pétroliers à l'époque, on payait 5 000 $, on supprime la surtaxe, on crée la taxe spéciale. Puis l'enveloppe à payer qui était de 5 000 $ devient à 8 000 $. Dans un certain moment, nous sommes en train de jouer un mauvais jeu vis-à-vis des organismes internationaux qui nous aident dans le financement. Donc ce sont des recommandations auxquelles le gouvernement devait tenir compte. En fait, il devait détaxer. C'est un produit où nous trouvons déjà actuellement les effets réels, de bons effets. Par exemple, l'entretien des routes. Nous voyons qu'effectivement la Banque mondiale envoie de l'argent. Et les routes, tout le monde en parle, vous avez fait des éloges sur la radio Capi, Denis
Bounia, oui.
Les travaux, c'est... Ouais.
Oui, tout à fait.
Mais qu'est-ce que notre pays? Donc notre pays, en principe, sur certains points, parce que ici je parle de l'OMD, j'entre en contact permanent avec ces gens, j'ai fait des recommandations en principe qui devraient à un certain moment arriver au niveau du gouvernement.
Monsieur Bounzé, dites-nous à votre avis, parce que vous n'avez pas nié la fraude, vous l'avez affirmé aussi à des proportions différentes, certes, quelles sont selon vous les voies de sortie pour qu'il y ait moins de fraude? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au niveau du gouvernement pour lutter contre la fraude?
Ok, les voies de sortie, je donne un exemple. Je suis au bureau, je suis devant moi avec un arrêté, l'arrêté 09-030 du 9 juin 1998. Dans cet arrêté, il y avait la détaxe. On dit par exemple que tous les produits pétroliers sont détaxés pour une période de 6 mois. Ici, ça concernait les véhicules utilitaires. On détaxe les véhicules utilitaires, mais les campagnards, c'est-à-dire les régions où il n'y a pas de grands véhicules ou bien de sociétés de transport en commun, Beni, Boukembo, Goma, où c'est des motos et de l'eau, cette suspension des droits n'a pas été faite. Pourquoi? Parce que au niveau de l'administration centrale, on n'a pas pensé effectivement aux gens qui vivent en brousse. Par exemple, nous qui sommes ici. Donc, pour la voie de sortie, c'est que le gouvernement s'imprègne. Soit il demande à l'OMD, des éléments, comment faut-il détaxer certaines marchandises. Ou,
oui, on a noté, Monsieur Bounzé,
la Tanzanie, ils se sont réunis pour que le droit des douanes, qui était de plus de 30-40%, soit payé entre 10 et 0%.
Oui, monsieur Bounzé.
De sortie pour alléger la misère de la population.
Mais oui, tout à fait. Monsieur Bounzé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Bounzé.
C'est vraiment scandaleux.
S'il vous plaît, monsieur Bounzé. Venons-en aux propositions concrètes. Vous avez dit qu'il faut diminuer les taxes. Ok, ça on a noté comme proposition. Quelle autre proposition concrètement?
Ok, ma proposition concrètement, par exemple, pour les marchandises diverses, les droits les plus élevés varient entre 20 et 13%, ce qui fait un chiffre de preuve de 35,6%. Ça, c'est le chiffre de preuve. J'aimerais qu'on puisse adhérer à la partie de la communauté d'État de l'Est. C'est-à-dire que les droits d'entrée pour les marchandises peuvent varier, par exemple, de 10 à 0%. C'est-à-dire exonérer certaines marchandises, comme l'a fait le ministre des Finances. Qui a appliqué la haute technologie de l'économie des États-Unis, où lui-même, les États-Unis peuvent produire et envoyer à perte, et l'État prend en compte les déficits occasionnés par ces marchandises. Donc, la voie de sortie, c'est de diminuer. J'insiste, vous pouvez entrer sur votre Internet, vous demandez à la communauté des États d'Afrique de l'Est, est-ce que c'est à partir de janvier, ils ont déjà commencé à appliquer? Oui. Si c'est oui, pour 80 millions d'habitants, ils se sacrifient afin que l'air contrôle là. la communauté des États de pays de l'Afrique de l'Est vive en paix par le mécanisme de sauvegarde et de relance du PIB, le produit intérieur brut. Je pense qu'à mon niveau, les Congo peuvent sortir aussi de ces, du PPT, des pays pauvres très endettés. Donc, ouais, la population par son PIB va augmenter et l'État va favoriser la création des entreprises. Parce que quand je vois le code, quand je vois le nouveau code des investissements suivant la loi 004/2002, du 21 février 2002, cette loi ici qui dit que pour entrer dans, le régime général à l'article 8, il prévoit qu'il faut porté sur un montant équivalent à 200 000 $. C'est-à-dire que, je donne un exemple, monsieur Walter...
En 30 secondes.
Il veut installer une usine de bonbons. Son usine, le coût réel vendu qu'il s'attend, c'est 150 000 $. Il doit verser 200 000 $ pour se faire, pour organiser, pour recevoir les bonus qui sont prévus par le code des investisseurs. Or, en réalité, ces montants-là, ce n'est pas ça même qu'il veut investir. Le montant investi est inférieur au montant réclus dans les codes d'investissement.
Monsieur Bouzé, est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Ok, alors, nous avons noté ces trois propositions. C'est bien de les avoir données. Merci d'avoir participé à ce magazine parce que nous avons encore à voir en direct le vice-gouverneur, M. Keïsavira, qui attend depuis longtemps à nos studios de Goma. Et c'est lui qui va clôturer ce débat. Merci et à la prochaine occasion.
Oui, merci, je suis en... Merci, Laurent.
Merci.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Voilà, pour clôturer cette question, nous avons en direct depuis nos studios de Goma le vice-gouverneur en charge des questions économiques et financières, M. Keïsavira Mbake, bonjour.
Monsieur Walter, bonjour.
Merci d'abord d'avoir patienté autant de temps, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. On parle de la fraude au poste frontalier de Kasindi. Nous sommes à 80 km de la ville de Beni, au nord Kivu. Vous avez séjourné là-bas pendant plusieurs semaines. Quelles conclusions tirez-vous par rapport aux allégations de fraude à Kasindi?
Bon, je voudrais d'abord préciser, Monsieur Walter, que Kasindi, en fait, hein, c'est une entrée, c'est comme Kasumbalesa, mais la différence avec Kasumbalesa est qu'à Kasumbalesa, on fait la déclaration. Mm-hmm. On déclare directement à Kasumbalesa, tandis que Kasindi n'est qu'une porte seulement d'entrée, mais les déclarations, en fait, se font à Beni. Mm. C'est pourquoi je vous dis la fraude, quand on parle de la fraude, ça ne se fait pas directement à Kasindi, mais c'est généralement, disons, là où on fait la déclaration, à Beni. Mm. Quand bien même au niveau de Kasindi, on peut dire qu'il y a, mais toutes là, enfin, du moins là, les activités principales se font à Beni, là où on fait les déclarations. C'est d'abord ça
une précision.
Je voudrais relever cela à l'intention des auditeurs, parce qu'ils ne connaissent pas très bien Kasindi. Ils croient que Kasindi, il y a tout là-bas, mais à Kasindi, il y a bien cet poste seulement où on enregistre seulement les entrées et on déclare seulement, je crois, la marchandise transfrontalière et c'est tout. Mais l'ensemble de la marchandise est déclarée à Beni. Voilà ce que je voulais d'abord préciser, M. Walter.
Voilà, c'est bien entendu.
En ce qui concerne, moi je ne dirais plus grand-chose parce qu'apparemment, c'est tout le monde qui a accepté ça, c'est tout le monde qui a accepté, bien sûr à des degrés différents. Mm-hmm. Je comprends très bien le problème, mais moi mon souci pour le moment, notre souci, le souci de l'autorité, c'est de voir maintenant comment juguler cette fraude.
Comment allez-vous faire?
Comment, oui, c'est ça justement, parce que vous avez dit la fois passée qu'il y avait des paramètres. Mm. J'ai fait une analyse pour dire voilà pourquoi il y a fraude. Il y a tous ces paramètres-là. Maintenant, comme nous sommes en train d'assister, si certains paramètres sont en train de trouver, si vous voulez, un dénouement là, mais nous devons nous y mettre directement pour que nous puissions restaurer l'autorité de l'État. C'est le problème seulement de restaurer l'autorité de l'État et que la force puisse revenir à la loi. C'est ça le problème.
Mais Monsieur le vice-gouverneur, lorsque, selon les informations à notre possession, on nous dit qu'il y a des officiers militaires très haut placés qui sont impliqués dans cette fraude, des autorités politiques qui sont aussi très impliquées dans cette fraude, comment, à partir du chef-lieu de la province, allez-vous pouvoir juguler ça dès lors qu'il y a toutes ces implications au niveau militaire et politique?
Non, des implications politiques, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas ça. Vraiment, je n'ai pas encore trouvé des implications politiques dans le cadre de la fronde. C'est la fronde telle que je l'ai décrite, c'est-à-dire, pratiquement tous les intervenants, j'ai pu suivre là, ils ont accepté ça, ils ont accepté ça.
Au niveau militaire.
Pour nous, ici, au niveau de la province, c'est une seule province.
Oui.
Quand bien même certaines personnes ont semblé dire que voilà, la réunification n'est pas encore expliquée, la réunification est là. Et nous connaissons pourquoi, par exemple, au niveau des entreprises et publics. Parce que ces entreprises, évidemment, on n'a pas encore au sens de. Au sens, si vous voulez, de l'accord global qui définissait, s'agissant des entreprises publiques, qui disait que voilà, avant la mise en place, d'autres animateurs, les animateurs actuels continuaient à travailler. C'est ce qui nous complique, c'est ce qui nous complique à ce niveau-là-bas. Je l'ai souligné aussi. Mais, de toutes les façons, l'autorité de l'État nous représentons au niveau de la province, nous représentons l'exécutif, nous représentons même la présidence de la République, l'espace présidentiel. C'est un problème seulement de restaurer l'autorité, lutter contre l'impunité. Alors c'est ce que nous allons nous allons nous appeler à cela. Et quand vous me demandez comment au niveau, à partir de comment on fait diriger, mais nous sommes des territoriaux. Et nous sommes des territoires, nous faisons des missions, on fait des missions à l'intérieur. Nous avions tout simplement attendu là que l'armée puisse s'impliquer.
Parce que nous avons
maintenant
appris que
nous
des officiers militaires sont impliqués dans ces interventions.
L'armée est décidée à s'impliquer carrément dans l'opération. Rassurez-vous que l'autorité administrative, l'exécutif et provincial n'a pas failli à sa mission comme telle. Ça n'est pas une faillite, ça n'est pas une faillite. C'est tout simplement tous ces paramètres-là que je vous ai signalés, les paramètres militaires, paramètres de guerre, tout ça. Comme on est en train maintenant de résoudre, nous sommes en train de résoudre ça, il ne reste plus qu'à s'exprimer, à être là pour rechercher justement les gens qui continuent à faire la fraude et puis les sanctionner, c'est tout.
Mais vous avez vécu pendant quelques semaines, vous venez d'une longue mission de Beni et Butembo. Vous avez rencontré probablement les opérateurs économiques, les différents responsables des régies financières. Lorsque vous avez discuté avec eux, est-ce que vous avez eu l'impression que vous parlez le même langage par rapport notamment à la jugulation de la fraude?
Absolument, absolument, M. Walter. Absolument, parce que tous les responsables des régies financières ne souhaitent que ça. Il n'y a personne qui voudrait travailler dans l'anarchie, il n'y a personne.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a...
Il n'y a personne, c'est-à-dire, c'est tout simplement, je me répète encore, c'est le problème seulement de l'autorité de l'État. Nous devons pouvoir maintenant, c'est-à-dire la première mission, on a fait une longue mission de sensibilisation. On a expliqué à tous les opérateurs économiques le bien fondé de ça, qu'il faut restituer à l'État les moyens de faire sa politique. Absolument, on ne peut rien faire. Ce jour-là, j'avais même, vous allez m'excuser le terme, j'avais donné l'exemple d'une maman accusée. Si vous voulez, on peut par exemple l'ablation de sein, et vous demandez encore à cette maman d'allaiter. Mais c'est impossible. C'est ce qu'on voudrait faire exactement subir à l'État. On peut parler. Par exemple, le représentant ici de guichet là. Il a parlé, il a dit que c'est bien d'alléger, mais le système que nous avons maintenant, je ne suis pas à ce niveau parce que bon, le système que nous avons maintenant, on connaît les difficultés des importateurs. Nos commerçants ont énormément de difficultés pour faire venir la marchandise jusqu'ici. Étant donné bien sûr la distance entre, par exemple, Mombasa et Butembo Beni, ou même Goma, qui est à peu près plus de 2000 kilomètres, nous connaissons toutes ces difficultés. Mais puisque nous ne sommes pas au niveau de légiférer, de toutes les façons, le ministre de l'économie est au courant de ça. S'il s'agit par exemple du prix du carburant, le ministre du carburant de l'économie, c'est lui qui nous donne les éléments du prix. Mais je crois que même le problème ne se situe même pas à ce niveau là-bas. Nous sommes au niveau de faire exécuter ce qui existe, ce que l'autorité, ce que l'État a déjà pris comme décision, les lois qui existent. Nous nous situons à ce niveau-là. L'exécution des lois qui existent, les lois et règlements qui existent, c'est tout, M. Walter.
Voilà, il y a une question d'un auditeur de Mbujimayi à votre intention. L'auditeur s'appelle Eddy Mouela. Il voudrait savoir comment est-ce qu'on peut permettre que la marchandise entre à Kassindi et qu'elle soit déclarée 80 km plus loin, c'est-à-dire à Beni. Est-ce que la loi prévoit cela?
Bon, de toutes les façons, ça, quand moi je demande, c'est apparemment il n'y a aucune entorse. Parce que le commerçant, l'importateur, déclare en fait là où il veut. C'est lui qui décide. Même à partir de Kassindi, il dit je vais déclarer ma marchandise à Boutembo, il est libre de le faire. Il dit je décide de le déclarer à Beni, il est libre de le faire, même à Goma. Pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à deux jeeps qui sont passés par Goma, mais qu'on va déclarer à Kindu. On va déclarer à Kindu. Il n'y a pas d'entorse. Je crois qu'il n'y a pas d'entorse au niveau de la législation douanière.
Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il va falloir rétablir l'autorité de l'État et donc remettre chaque maillon du pouvoir public à sa place. Mais selon les informations à notre possession, dans la gestion notamment des douanes assises au niveau de Beni Boutembo, ça ne se passe pas comme ça. Il y a parfois des subalternes qui ont plus de pouvoir que leur chef hiérarchique.
Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. De toutes les façons, quand nous faisons des enquêtes, nous voyons seulement le responsable. Hein.
Donc, vous n'avez pas d'autres informations à ce sujet parce que nous avons des sources sûres.
Les informations à ce sujet, je n'ai pas d'informations parce que vous voyez que ce sont des responsabilités à différents niveaux. Et quand on fait des investigations, on établit les responsabilités à tous ces différents niveaux. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là-bas. Mais si on ne voit pas l'implication directement du chef, mais comment voulez-vous impliquer maintenant le chef ou le projet? Non, je crois que c'est vraiment individuel. Ce sont des faits pénaux qui sont vraiment personnels.
Alors, à quel moment est-ce qu'on peut espérer que finalement l'autorité de l'État aura été rétablie sur toute la province du Nord-Kivu, qu'à partir de Goma, vous qui prenez une décision en matière économique, ce soit directement appliqué sans que des coups de fil transitent par Kinshasa avant d'exécuter à Beni?
Non, parce que de toutes les façons, M. Walter, on a déjà fait ça. Il n'y a jamais ces coups de fil, tout ça, on a déjà fait ça. En août dernier, là, tout était remis vraiment en ordre, tout était déjà régulier, tout le monde à Beni est témoin de cela. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'exagérer les choses, de croire que c'est une chose impossible. Il n'y a rien d'impossible, c'est tout simplement de l'administration. Remettre un peu de l'ordre, comme le commandant région, là, à qui j'ai pleinement confiance là-bas, a pu rappeler les militaires. Alors, je crois que ça a déjà un grand pas. Il n'y a vraiment pas rien à dramatiser dans cette affaire.
Voilà, Monsieur Kessé-Virambake, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu. Vous êtes en charge des questions économiques et financières. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir rassuré les auditeurs que l'autorité de l'État est en train d'être rétablie sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Merci beaucoup et bonne chance dans l'exercice de vos tâches.
Merci,
Au revoir. Ok, action. Pépé Mboula nous a appelé de Beni pour dire que si les recettes Kassindi ont baissé, c'est dû à l'insécurité et non à la fraude. Selon Pépé Mboula, personne ne peut vouloir investir dans une zone qui n'est pas sécurisée. Mboula conclut en disant que la douane n'y est pour rien. Mais bon, on a entendu les réponses des uns des autres. Ça, c'est le point de vue de Mboula depuis Beni qui nous avait appelé tout à l'heure. Puis d'autres auditeurs qui appellent pour nous faire d'autres propositions, notamment qu'il faudra parler un jour aussi. Dans ce magazine du projet du barrage de Katende, c'est dans le Kassai. On en parlera, évidemment. Mais pour l'instant, quittons Beni, le Kassai et ailleurs, rendons-nous à Kasongo pour parler avec notre confrère Modeste Chabani. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes, vous, journaliste, à la radio Sauti et à Mukaji. Nous vous appelons pour que vous puissiez dire à nos auditeurs, Kassongo, d'abord, situez-nous un peu Kassongo.
Merci beaucoup. Le territoire de Kassongo est un ancien poste arabe. Et s'il faut qu'on revienne un peu à l'histoire. Il fut créé par l'arrêté royal du 2 juillet 1912 comme district du Maniema et redevenu territoire Kassongo, le nom d'un ancêtre très fort et un grand guerrier, et le nom que porte actuellement le chef-lieu. Il est un de sept territoires de la province du Maniema, à côté de Pangui, Kibombo, Kabambare, Kailo, Punia et Lubutu. Il est limité au nord par le territoire de Pangui, au sud par le territoire de Lubao-Saint-Oui, c'est dans le Kasaï oriental, et aussi par le territoire de Kongolo, c'est dans le territoire de Katanga. Et à l'ouest, il est limité par le territoire de Kibombo et à l'est par le territoire de Kabambari.
Voilà.
Ce territoire a une superficie de 16 201 km².
Mais il y a un problème, alors, il y a un problème, c'est que Kasongo est un peu enclavé, cher monsieur Modeste Chabani, Kasongo est enclavé, pour quitter Kasongo, il faut atteindre au moins la voie ferrée au niveau de Samba.
Oui, il est ouvert à la voie ferroviaire à travers sa grande gare de Samba qui est située à 41 km du chef-lieu exactement. Et c'est cette gare qui lui permet une grande ouverture et aussi lui permet du moins les possibilités d'évacuation de ce produit agricole. Bien entendu, c'est un territoire à vocation agricole où 85% de la population vit essentiellement de l'agriculture.
Mais alors, la route entre Kasongo et Samba pour atteindre la gare, elle est dans quel état cette route-là pour faciliter l'évacuation des produits agricoles?
Bon, la route, elle est comme toutes les autres routes du pays, mais donc elle est impraticable, on peut dire. Elle a connu une certaine réception, du moins de la part de l'organisme CAIR international, il y a de cela à peine une année. Mais cet état est en train de structurer de plus en plus, étant donné que nous traversons une période pluvieuse. Mais pendant la saison sèche, le camion est circulé sans problème. Dans 2 heures, un camion peut quitter Kasongo, y compris la traversée et arriver à Tamba sans problème. Pour l'instant, les véhicules, surtout les véhicules Toyota, bon, il n'y a que deux dans ce territoire, font une journée de marche avec la traversée. Ils connaissent des pannes d'une manière régulière, étant donné qu'il y a maintenant beaucoup de trous.
Voilà.
Bon, les travaux eux-mêmes étaient faits à la main, comprenez.
Alors, Modeste Chabani, quelle est l'importance de la voie ferrée qui passe par Samba pour Kasongo?
Cette importance est de taille. Comme je l'avais dit, la voie ferrée permet aux habitants de Kasongo de bien évacuer à grande échelle leur production agricole. Parce que Kasongo n'est pas seulement Kasongo centre. Il y a Maringa, Mulu, Nonda, Kasenga, Mamba Kasenga, Bakwange. Alors, tous ces habitants de ces contrées vivent essentiellement l'agriculture. Et les produits agricoles sont achetés par des opérateurs économiques qui, à leur tour, acheminent ces produits agricoles, soit au Katanga ou au Kasaï. Et la voie d'ouverture, c'est la gare centrale de Samba.
Voilà.
C'est celle-là qui permet aux opérateurs économiques d'acheminer une grande quantité de produits agricoles, même des centaines de tonnes. À ces provinces-là dont je parlais, Katanga et Kasaï et Kalemie aussi.
Voilà, c'est principalement le riz, le maïs, le manioc et surtout le coton. Mais on sait très bien dans l'histoire que Kasongo, c'est la ville de Tipo-Tipo. Et Kasongo, c'est la ville où les Arabes se sont affrontés aux Belges pour le contrôle de tout ça. Est-ce que il y a encore, on note encore aujourd'hui des traces du passage des Tipo-Tipo et de la culture musulmane à Kasongo?
Exactement, comme je dis que c'est un ancien poste arabe, c'est d'abord Tipo-Tipo, ses amis qui se sont installés à Niangé, et exactement à Kasongo, juste en aval de la grande cathédrale catholique. Au moment où je vous parle, il y a encore des vestiges au niveau de Kabonde, de la rivière Kabonde, et il y a même les traces du comptoir à Machabon, de Tipo-Tipo, Mounouara, Boissé-Fou, Balandique, trop loin, à 55 km de Kasongo, en Niangé. Il y a encore beaucoup de traces. Et à notre avis, nous pensons qu'on peut exploiter ces traces pour rentabiliser ce milieu sur le plan touristique. Il y a encore un autre grand monument qui a été érigé en mémoire des officiers belges qui se sont affrontés aux officiers arabes et qui ont eu la mort c'est notamment le cas du lieutenant Lupin, en mémoire duquel on a érigé ce grand monument historique qui garde encore sa beauté.
Voilà. On sait qu'il existe un programme financé par l'UNESCO, notamment pour retracer la route de l'esclave à travers la République démocratique du Congo. Et je pense que si les responsables de ce projet, notamment notre estimé collègue, le pasteur Théodore Ngoy, s'il nous attend, ou si quelqu'un d'autre a entendu ça, on devrait mentionner aussi Kasongo sur les sites à exploiter par rapport à la route de l'esclavage à travers la République démocratique du Congo. J'ai cru comprendre que notre ami Chabani n'est plus en ligne. Okapi Action, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi et se réjouit de vous retrouver lundi prochain, 9h02, heure de Kinshasa. Je suis Walter Molondi. Je vous ai présenté cette émission avec beaucoup de plaisir.